valeurs HI-203 et 209, histoire médiévale. Sixième cassette, deuxième phase, présentée par Monsieur Neveu.
La vassalité carolingienne. Nous allons étudier cet aspect grâce à trois textes. Et ce sera justement un exercice d'explication de documents. Nous allons étudier ces trois textes en même temps, selon les principes qui se trouvent dans les recommandations que vous avez reçues. Je commence donc par la présentation des documents. Premier aspect, quelle est la nature de ces documents? Le premier document est extrait de ce qu'on appelle le formulaire de Tours. Il s'agit d'une formule de recommandation des années 725-750. Le deuxième texte est un extrait des annales du royaume des Francs à l'année 757. C'est un extrait de ce qu'on appelle les annales royales. Il s'agit de la description d'une recommandation, celle d'un grand personnage, le duc Tassilon de Bavière, sous le règne de Pépin le Bref. Quant au troisième document, c'est un extrait du capitulaire d'Estine. En fait, un canon du concile d'Estine qui s'est tenu à Estine, en Belgique actuellement, en 743, c'est-à-dire sous le principat du même Pépin le Bref, mais avant son accession à la royauté. Les auteurs sont anonymes pour les deux premiers textes. Quant au troisième, il s'agit d'un auteur collectif, c'est-à-dire les membres du dit concile, avec le prince à leur tête. Les circonstances maintenant, tous ces textes se situent entre le premier quart et le deuxième quart du 8e siècle, entre 725 et 757. Il s'agit donc de la fin de l'époque mérovingienne et du début de l'époque carolingienne, la date du changement de dynastie étant 751. C'est donc une période à la fois de troubles et de reconstitution du pouvoir royal. Avant d'aborder les textes, il faut dire un mot des origines de la vassalité. À vrai dire, elles sont assez obscures. Et il y a une controverse traditionnelle entre les partisans de l'origine romaine et ceux de l'origine germanique. C'est sans doute un faux problème, et on peut penser que les apports germaniques se sont superposés à ce qui existait dans le cadre de l'Empire romain, avec la protection exercée par les grands propriétaires ruraux, qu'on appelait les patrons. Disons que cette situation a été développée aussi par le climat d'insécurité et qui a régné depuis la fin de la période romaine jusqu'à la période carolingienne et par l'incapacité de la puissance publique à faire régner l'ordre. Les grands ont donc été amenés à assurer eux-mêmes la protection des faibles. En tout cas, les liens vassaliques vont se renforcer à l'époque carolingienne et ils vont prendre un caractère nouveau avec la liaison entre recommandations et bénéfices. Il s'agit là de l'apport spécifique de la période carolingienne. Quels sont les sujets des textes? Pour terminer la présentation, il s'agit de différents aspects de la recommandation et du bénéfice. J'en arrive maintenant au deuxième aspect, c'est-à-dire à l'analyse des textes. Et pour commencer, à leur analyse littérale. Le premier texte, c'est une formule de recommandation, en usage dans le deuxième quart du 8e siècle. Nous avons un plan tout à fait classique avec le protocole initial, adresse et souscription, avec l'exposé où le dépendant rappelle qu'il s'est recommandé. L'acte écrit ne concerne donc pas la recommandation proprement dite. C'est un contrat oral avec geste symbolique. Nous en reparlerons tout à l'heure. Le dispositif est à la ligne 13, comme conséquence, etc. Il concerne simplement une obligation accessoire, une clause pénale sanctionnant les infractions des deux parties. C'est un cas particulier, puisqu'il s'agit d'un contrat très inégalitaire. Nous avons d'une part un grand personnage, appelé Magnifique Seigneur, ligne 1, et d'autre part un pauvre air qui dit qu'il n'a pas de quoi se nourrir ou se vêtir, ligne 3. Il a demandé, c'est donc déjà fait, de pouvoir se livrer ou se recommander en la main bourre du Seigneur. Alors, vous avez ici le vocabulaire essentiel de la recommandation. Se recommander, en latin, c'est commendare, et le mot munde burdum ou munde burdis, en vieux français, main bourre, qui signifie protection. Quels sont les termes du contrat ? Le Seigneur accorde donc sa protection et son aide. Il s'agit ici d'une aide surtout matérielle, la nourriture et le vêtement. Le recommandé, en échange, donne un service au Seigneur, il s'agit sans doute d'un service domestique, et il fait preuve également de respect, autrement dit obéissance, vis-à-vis du Seigneur. Vous avez donc les deux termes essentiels, service et obéissance, en latin servitium et obsequium. Ligne 10, comme peut le faire un homme libre ? C'est la seule restriction. Il s'agit d'un homme libre et non pas d'un esclave. Le recommandé est lié au Seigneur, mais il conserve son statut d'homme libre. Enfin, la durée du contrat, ligne 9, tout le temps que je vivrai. C'est donc un contrat viager, mais un contrat définitif. Ce qui est contraire, par exemple, à l'esprit du droit romain. Que se passe-t-il donc en cas d'infraction de l'une ou l'autre des parties ? C'est l'objet même du dispositif, ligne 13. Une amende en argent. Mais toutefois, le lien n'est pas rompu. Ce lien vassalique ne peut être rompu que par la mort de l'un des contractants. Ligne 14. Malgré l'amende, la convention elle-même resterait en vigueur, en cas d'infraction bien entendu. C'est cette clause pénale qui justifie l'acte écrit. C'est donc ce qu'on appelle un contrat synalagmatique, autrement dit un contrat qui marque un engagement réciproque et des obligations réciproques des deux parties, bien que les deux soient de conditions différentes. Ce contrat type concerne les dépendants de conditions inférieures. Mais la vassalité s'est répandue jusqu'au sommet de la hiérarchie sociale. Deuxième texte, par conséquent, analyse littérale du deuxième texte, recommandation de Tassilon de Bavière. Quels sont les principaux centres d'intérêt de ce texte ? Il met en scène de très grands personnages, à la différence du premier, et il nous décrit précisément la cérémonie de la recommandation, seulement évoquée dans le texte précédent. Un mot sur le duc Tassilon de Bavière. La Bavière avait été sous le protectorat franc dès le VIe siècle, mais elle avait profité de la décadence mérovingienne pour recouvrer son indépendance. Le duc Tassilon, Tassilon III, né vers 742, règne depuis 749. Mais bien sûr, il s'agit d'une minorité, et Pépin le Bref, profite de cette minorité pour s'emparer de la Bavière. En 757, au moment de la rédaction du texte, Tassilon a environ 15 ans. Par la suite, et contrairement au contrat vassalique qu'il va passer avec Pépin, il se révoltera à plusieurs reprises, notamment en 761 contre Pépin le Bref, en 787 contre Charlemagne. À chaque fois d'ailleurs, cette rupture de contrat sera sanctionnée par des confiscations temporaires du duché. Enfin, une dernière révolte en 788 aboutira à la confiscation définitive du duché. Et Tassilon sera exilé dans une abbaye normande, d'ailleurs à Jumièges, où il mourra sous l'habit monastique en 794. Nous trouvons dans ce texte également le vocabulaire de la recommandation. Par exemple, lignes 20 et 21, se commandant par les mains en vasselage, en latin, puisque l'original est évidemment en latin, in vasatico se commendans. Et plus loin, comme un vassal doit l'être avec ses seigneurs, ligne 24. En latin, sicut vasus dominus suos esse deberet. Alors, le vocabulaire est ici intéressant. Nous avons le mot vasus, en français vassal. Quelle est l'origine de ce mot? Il apparaît au 8e siècle et il serait d'origine celtique. Il viendrait du mot guas, qui signifie garçon ou serviteur. Le doublé de ce mot vasus, en latin vasalus, qui est donné directement vassal en français, apparaît au 9e siècle. Il est formé, semble-t-il, sur l'adjectif celtique « guasar », « celui qui sert ». C'est évidemment un mot qui est destiné à une fortune considérable au Moyen-Âge. Il y a un autre terme pour désigner le vassal, et on le trouve dans le texte. C'est le mot « homme », ligne 29, et les principaux de ces hommes qui étaient avec lui, confirmèrent, etc. En latin, « eteius homines maiores natu », les principaux de ces hommes. Ce mot « homme » est l'équivalent du mot « vassal » et c'est presque toujours le cas au Moyen-Âge. Il s'agit d'ailleurs ici des propres vassaux de Tassilon qui confirment l'engagement de leur seigneur. En face du vassal, vous avez le seigneur en latin « dominus », dans le texte « dominos », les seigneurs, car il y en a plusieurs. Quels sont ces différents seigneurs? D'une part le roi, Pépin le Bref, et d'autre part ses fils, Charles, c'est-à-dire le futur Charlemagne, et Carloman. L'engagement n'est donc plus seulement personnel et viager, il est valable également pour les descendants du roi. C'est une évolution très intéressante vers l'hérédité, les liens vassaliques. Voyons maintenant quelle est la cérémonie de la recommandation. Le roi tenait son plaid à Compiègne, c'est l'Assemblée générale annuelle, au mois de mars. Cette cérémonie va donc avoir lieu devant l'ensemble de l'aristocratie. La cérémonie comprend deux parties. D'abord, un geste symbolique, ligne 20-21, se commandant par les mains en vasselage, in vasatico se commandans per manus. Le seigneur reçoit donc dans ses mains les mains jointes du vassal en signe de soumission. Ce rituel constitue à l'origine la matérialisation de l'acte. Il prendra plus tard le nom latin dominium, en français hommage. Ce terme n'apparaît que vers le 10e siècle. Donc d'abord le geste symbolique, deuxième élément de la cérémonie de recommandation, le serment de fidélité. C'est à la ligne 21, il jura en de multiples et innombrables serments, les mains placées sur les reliques des saints. Alors, à l'origine, ce serment était purement profane, mais le geste a été christianisé. Et ici, la promesse est faite sur des reliques, accompagnée d'ailleurs d'un second geste rituel, les mains placées sur les reliques. Ligne 22. Et plus loin, il confirma sur les corps des saints Denis, Rustique et Éleuther. Ligne 26-27. Il s'agit donc de multiples confirmations qui prouvent, entre parenthèses, la faible confiance que Pépin avait, d'ailleurs à juste titre, envers Tassilon. Il s'agit d'ailleurs des reliques les plus prestigieuses du royaume des Francs. Saint-Denis était évêque de Paris vers 250, il est mort décapité, il est martyrisé d'ailleurs à Catuliacum, le lieu qui va devenir Saint-Denis, avec justement les prêtres rustiques, plutôt le prêtre rustique et le diacre et le terre. Les autres saints, Saint Germain, il s'agit soit de Saint Germain, évêque de Paris, vers 496-576, soit Saint Germain d'Auxerre, 378-448, évêque d'Auxerre, vers 418. Enfin, Saint Martin, il s'agit bien sûr de Saint Martin, évêque de Tours, 316-397, évêque de Tours, vers 370. Voyons maintenant quels sont les rapports du seigneur et du vassal. Un vassal doit avoir vis-à-vis de son seigneur un esprit droit, ligne 24, un ferme dévouement, qualité qui ne semble guère escomptée de Tassilon, si on en juge par la multitude des serments. Ensuite, tous les jours de sa vie, ligne 28, c'est le rappel du caractère viager du contrat. Il est vrai que les précautions n'étaient pas superflues envers un homme qui n'hésitera pas à se révolter à plusieurs reprises contre ses seigneurs. Nous avons vu jusque-là un aspect de la vassalité telle qu'elle apparaît au 8e siècle. En effet, dès cette époque, la plupart des vassaux reçoivent en échange de leur fidélité un bienfait, en latin beneficium, qui est la plupart du temps une terre. Ainsi, Tassilon a recouvré son duché à titre de bienfait. Et lors de sa révolte de 787, il doit le remettre à son seigneur. Le bienfait est souvent symbolisé par un objet, souvent d'ailleurs un bâton. Il s'agit d'un troisième geste symbolique. Ce bienfait va donner en français bénéfice, en latin beneficium, français bénéfice. C'était à l'origine une donation purement gratuite. Mais à l'époque mérovingienne, le bienfait va prendre le plus souvent la forme du contrat de précaire. Le mot précaire vient du latin precarium, qui a été féminisé à l'époque carolingienne en precaria. Il a deux caractères essentiels. Il s'agit premièrement d'une concession faite par un supérieur à un inférieur, à la demande de celui-ci, à la prière de celui-ci, d'où le latin preces qui a donné precarium. Deuxièmement, c'est une concession temporaire, dont le titulaire n'a que la jouissance et non pas la propriété. À tout moment, le donateur peut reprendre son bien. C'est souvent un contrat de nature défavorable, imposé par les puissants vis-à-vis de gens plus faibles. Le système de la précaire est surtout utilisé par l'Église à l'époque mérovingienne et aussi carolingienne. Elle sert à récompenser de façon temporaire les services rendus par des clercs ou par des laïcs. Elle permet par ailleurs aux laïcs de donner leurs biens aux établissements ecclésiastiques tout en les conservant leur vie durant à titre de précaire. La précaire subsiste à l'époque carolingienne, mais parfois son usage retourne contre l'Église du fait de la politique des premiers carolingiens. Et c'est ce que montre justement le troisième texte intitulé « La Precaria Verbo Regis », un titre que nous expliquerons tout à l'heure. Ce texte date de 743, il s'agit donc du Concile d'Estine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au cours de ce concile, Pépin, encore maire du palais, Pépin le Bref, veut faire entériner par l'Église les spoliations de terres ecclésiastiques qu'il a pratiquées. Ici, les décisions du concile sont notifiées dans un capitulaire. C'est le canon numéro 2. Il y aura une série de conciles sur le même sujet, par exemple en 742 et en 744 à Soissons. Quelles sont les parties en présence? Ligne 32, nous décidons. Ligne 37, notre armée. Et ligne 41, les questions du prince. Par conséquent, il s'agit du maire du palais, c'est lui qui prend la décision. Sur le conseil des serviteurs de Dieu et du peuple chrétien, ligne 32-33. Il s'agit là des évêques représentant le peuple chrétien. Pourquoi ces spoliations, d'après le texte? ligne 33, à cause de la durée des guerres. Ou encore, ligne 33-34, à cause des persécutions par les nations qui sont à nos frontières. En fait, on peut discuter de telles raisons, puisque les campagnes militaires qui ont lieu à cette époque sont plutôt des campagnes de conquête des Francs, plutôt que des persécutions subies par eux. Vous avez notamment les campagnes contre les Bavarois, contre les Saxons, ou encore contre les musulmans, lorsque Pépin le Bref s'empare de la Septimanie. Mais, notons-le bien, c'est important, la plupart de ces peuples sont païens, ou en tout cas non-chrétiens pour les musulmans. Persécution signifie donc guerre religieuse. Et c'est un argument très important pour emporter ici l'adhésion des évêques qui est escomptée. Alors, ligne 37, pour venir en aide à notre armée. Le prince carolingien a besoin de soldats. Il s'agit de fidèles qui doivent accomplir le service militaire et qui soutiendront aussi la dynastie des maires du palais. Pour avoir ces soldats, et en particulier pour avoir des cavaliers susceptibles de s'équiper, un équipement qui coûte très cher, il faut leur fournir un bénéfice qui leur permettra d'acquérir les équipements nécessaires. Or, les grands domaines royaux mérovingiens sont désormais réduits à peu de choses au moment de la décadence mérovingienne. En revanche, la famille des Pépinides possédait une richesse foncière considérable, notamment en Austrasie, mais elle devient insuffisante pour s'assurer une nombreuse clientèle, tout en conservant sa puissance personnelle. C'est pourquoi Pépin, comme l'avait fait d'ailleurs avant lui son père Charles Martel, se tourne vers l'immense fortune foncière du clergé. Cependant, Pépin tient à ménager l'Église, qui a gardé fort mauvais souvenir de son père, justement à cause de telles spoliations. Nous en arrivons donc au passage essentiel du texte. Nous retiendrons, pour un temps, à titre précaire et à sens, une partie du patrimoine ecclésiastique, ligne 36, en latin, sub precario et censu, à titre précaire et à sens. Le prince s'empare donc d'une partie des biens d'église, qu'il va céder à titre de bénéfice à ses vassaux, qui seront alors chasés, autrement dit casés, voir ligne 38, le mot chasement, à chaque chasement. Il y a donc un système de double allégeance du vassal. Vous avez premièrement une allégeance vis-à-vis du roi. Le vassal lui doit le service militaire. En échange, il reçoit la possession de la terre, autrement dit, un bénéfice. Et deuxièmement, une allégeance envers l'Église. Le même vassal tient la terre en précaire, c'est-à-dire de façon temporaire. Et cette dépendance est matérialisée par un cens, c'est-à-dire une redevance fixe, ici, un sou de 12 deniers par an, pour chaque chasement. C'est en fait une redevance insignifiante. C'est donc pourquoi le système est appelé, comme le titre l'indique, « Precaria Verbo Regis », ce qu'on pourrait traduire, mot à mot, « précaire par la parole du roi », mais plus précisément, « précaire constitué par l'Église sur ordre du roi en faveur d'un vassal royal ». C'est bien différent, évidemment, des précaires constitués librement par l'Église. Quelles sont les conditions de la cession en précaire? Ligne 40, si meurt celui à qui le bien a été prêté, que l'Église soit réinvestie de son propre bien. C'est donc une concession limitée théoriquement à la vie du bénéficiaire. Mais cette condition est limitée par la prescription suivante. Ligne 41-42. L'Église devra renouveler le précaire si, une nouvelle fois, la nécessité force le prince à l'ordonner. Cependant, la précaire devra être rendue si l'Église ou le monastère s'ouvre de pauvreté ou de pénurie. Évidemment, ces précautions sont purement formelles. La plupart du temps, ces biens furent incorporés au patrimoine foncier des vassaux royaux et qui les léguèrent à leurs enfants. Ce système représentait une concession à l'Église en lui conservant un droit de propriété éminente sur les terres confisquées. Mais en réalité, la précaria verbo regis n'arrêta pas le mouvement de sécularisation des biens du clergé en faveur des guerriers et des fidèles du prince. J'ai donc terminé mon analyse littérale. Maintenant, il importe de faire un plan de manière à présenter cette analyse de façon définitive, telle qu'elle devrait apparaître sur vos copies si vous aviez de tels textes à étudier en examen. Alors je vous propose un plan, étant bien entendu qu'il y a toujours plusieurs possibilités dans ce domaine et que ce plan n'est qu'un exemple parmi d'autres. Voici mon plan. Première partie, le contrat vassalique. Deuxième partie, les rites de la recommandation. Troisième partie, l'Église et la vassalité. Je vous donne quelques détails rapides. Il est facile de regrouper et tout ce que nous avons vu dans l'analyse littérale dans le cadre de ce plan. Première partie donc, le contrat vassalique. Quels sont les rapports du seigneur et du vassal, voire notamment ligne 24, les différents échelons de la hiérarchie sociale, avec le contrat du premier texte concernant une personne très modeste, celui du second texte concernant au contraire une personne très élevée dans la hiérarchie, les termes du contrat, qu'on voit notamment dans le premier et le deuxième texte, le seigneur devant protection et aide, le recommandé devant un service, soit domestique dans le premier texte, soit militaire dans le second et le troisième, devant respect aussi, fidélité, la durée du contrat, durée viagère, avec ce qu'on voit dans le premier et dans le second texte, enfin, le bénéfice, il n'en est pas question dans le premier texte, dans le deuxième texte, il est question du duché de Bavière, redonné en tant que bénéfice. Et le troisième texte parle encore du bénéfice. Alors bien sûr, ce terme de bénéfice est un terme de l'époque carolingienne. Par la suite, on appellera le bénéfice fief. Et c'est le mot qui est resté dans l'ensemble du Moyen-Âge, latin feodum. Mais ce mot n'apparaît qu'à la fin de l'époque carolingienne, vers le Xe siècle. Deuxième partie maintenant, les rites de la recommandation, tels qu'ils nous sont décrits en particulier dans le deuxième texte, le geste symbolique des mains, ce geste fait en public, c'est ce qu'on appellera plus tard l'hommage, ici pour le deuxième texte c'est le plaid de Compiègne, deuxième élément, le serment des fidélités, c'est ce qu'on appellera plus tard la foi, donc les deux gestes sont l'hommage et la foi. Et troisième élément, le rôle de l'écrit, tel qu'il apparaît en particulier à travers le premier texte. Troisièmement, l'Église et la vassalité. Vous avez l'introduction des reliques, telle qu'elle apparaît à travers le deuxième texte, avec l'exemple de Tassilon. Et vous avez le problème des terres, tel qu'il apparaît à travers le troisième texte, la confiscation des terres ecclésiastiques pour les faire rentrer dans le système vassalique, grâce à l'astuce, si je puis dire, de la precaria verbo regis. J'en arrive à ma conclusion. Nous avons ici, à travers ces textes, différents aspects de la vassalité, un système en pleine évolution, et on voit que le rôle du bénéfice est de plus en plus important. Les textes, nous montrent que le seigneur est le grand bénéficiaire du système, et surtout le roi. En revanche, l'Église apparaît comme la victime principale. Mais elle s'y retrouve d'une autre manière, puisque vous avez une christianisation du système. Cependant, par la suite, le système va évoluer de façon très défavorable au pouvoir royal, quand ce pouvoir va s'affaiblir au bénéfice des grands, qui vont être, cette fois-ci, les grands bénéficiaires de la vassalité.